Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 6, le 7e épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre-Antoine Grégoire. Qui êtes-vous, Pierre-Antoine Grégoire?
Je suis Pierre-Antoine Grégoire et je travaille Clever Cloud sur des sujets de virtualisation et autres joyeusetés.
Je suis aussi accompagné de Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous?
Bien le bonjour. Alors moi, chez Clever Cloud, je fais du Rust, je fais du réseau, je fais des outils pour les autres.
Tu fais du fast, tu fais des trucs marrants.
Ça.
Je suis aussi accompagné de Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous?
Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis dev chez Clever. Je bosse sur pas mal de choses différentes. Je bosse beaucoup aussi sur tout ce qui est base de données, stockage, etc.
Ouais. Right. Etc. Tu touches à tout.
Oui. Et j'ai un chat super mignon derrière moi, c'est important.
Alors, si vous entendez des bruits de trucs qui grattent dans des boîtes,
ce sera de ma faute.
Voilà. Si vous entendez des bruits de klaxon, ce sera probablement de ma faute.
Service Mesh.
Ouais, toi aussi. ServiceMesh.io, premier lien. ServiceMesh.io, c'est un site générique qui se veut explicatif de c'est quoi un service mesh. C'est une excellente question. Geoffroy Coupry, c'est quoi un service mesh?
Alors, c'est un site générique, mais déjà, ça a été écrit par l'un des cofondateurs de Linkerd. Donc,
c'est semi-générique.
Voilà. Mais l'explication est quand même très bonne parce que c'est quand même fait par des gens dont c'est le taf. Donc, le concept du service mesh est sorti dans les archis à conteneurs. Le problème, c'était qu'on voulait faire du service discovery pour savoir quel microservice peut causer auquel, à quelle IP ils sont, etc. Pouvoir faire du load balancing, des retry, des choses comme ça. Et quand on a beaucoup de microservices, on se retrouve souvent à aller implémenter ça dans chaque microservice. Et c'est désagréable. Et l'idée, ça a été, pourquoi est-ce qu'on ne shipperait pas à côté de chaque microservice un proxy qui, lui, va obtenir régulièrement la nouvelle conf de quel service est où, va faire le load balancing, c'est-à-dire que le microservice cause au proxy qui va se connecter au proxy d'un autre microservice qui, lui, va retransmettre après la requête à l'autre microservice. Et donc, chaque proxy va faire son load balancing de savoir à qui il peut causer, va faire les retries, va gérer la connexion sécurisée, gérer pas mal de choses.
Le renew Let's Encrypt, par exemple.
C'est ça.
Mais on veut utiliser Let's Encrypt.
Il y a un aspect qui est intéressant sur le TLS, justement, c'est qu'ils vont faire du mutual TLS, c'est-à-dire qu'il y a une authentification par certificat serveur, c'est-à-dire qu'on se connecte à un service, on vérifie son certif, mais il y a aussi une authentification client, c'est-à-dire que le service qui se connecte va être authentifié par l'autre aussi. Donc, c'est plutôt cool au niveau sécurité.
C'est plus réciproque. Voilà.
C'est ça. Et donc, chez Linkerd, alors, notamment Linkerd 2, en fait, Linkerd, c'était un projet en Scala. Et à un moment, ils ont racheté Buoyant, qui était une boîte de gens qui font du Rust, pour faire un proxy en Rust. Et Linkerd 2 est en Rust. Et donc, du coup, ils ont vu des gains de perf en faisant ça. C'est un aspect que je trouve très intéressant. Chez CleverCloud, on a tendance à avoir tout qui passe par un proxy central. Mais avec du service mesh comme ça, ils ont vu des gains de perf parce que le sidecar proxy, celui qui tourne à côté du service, connaît le réseau du point de vue du microservice. C'est-à-dire que si on veut causer un microservice qui est dans le même rack ou qui est dans un DC différent, la latence ne sera pas la même du tout. Et donc, du coup, voire même le microservice, le proxy va pouvoir reconnaître les pertes de connexion peut-être entre baies, entre services, entre data centers, et rerouter intelligemment du point de vue de ce microservice. Donc du coup, ça fait une gestion très très fine du réseau et je trouve ça super intéressant.
Vas-y, excuse-moi.
Ouais, ça permet des améliorations contextuelles et puis... Et quelque part, ça ouvre la porte à des optimes, mais qui restent sur un outil relativement générique, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas trop de l'implém.
Tu peux enfin faire du polyglotte sans trop te prendre la tête. Oui. Parce que, tu vois, les gens qui te vendaient beaucoup d'architecture à la Netflix OSS, c'était globalement que de la JVM parce qu'il fallait utiliser toutes les briques Netflix, il y avait du Eureka, du, je me rappelle plus, enfin c'était Service Discovery, c'était
Eastrix, non Eastrix c'était pas
de chez Eastrix, c'était si c'était utilisé par eux, c'est pour le circuit breaking.
Ouais.
Donc c'était directement dans ton code, c'était pas dans un proxy à côté ou dans une API gateway, parce que t'as beaucoup de gens qui faisaient du circuit breaking là-dessus aussi à ce niveau-là. Et que c'est toujours un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui se situe où dans une archive moderne quand t'as plein de concepts comme ça qui ont été repris dans une gateway d'API, qui ont été repris dans un service mesh, ou qui ont été intégrés à ton architecture parce que tu utilises des briques qui font que c'est possible. Et donc, tu avais Eureka pour la, je crois que c'était le serveur de config partagé, ou le truc de service discovery, je me rappelle jamais des noms. Enfin bref, il y a tous ces éléments-là que tu peux retrouver dans un mesh avec un seul car proxy. Là, tu les mettais dans ton code avec une base de données quelque part, genre etc ou des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois tu te dis mais quand est-ce qu'il faut utiliser ça, et dans l'article ils disent bien, ils séparent bien, ils expliquent bien quand est-ce que t'as un intérêt à utiliser du mesh, du service mesh.
Il y avait un intérêt d'ailleurs qui était sur organisationnel. La question était simple, c'est est-ce qu'on veut apprendre à tous ces développeurs à faire du load balancing, du retry, du TLS, etc. ou est-ce que on considère que bah si ils shippent un service, bah ce sera fait. Ce sera fait par l'archi qu'on a fait. Et j'ai vraiment eu des gens qui m'ont dit, bah, on gagne du temps, de l'argent et de l'argumentation comme ça parce que, bah, c'est là. Voilà. Il n'y a pas besoin de se poser de questions.
Je pense que la question, elle se pose pas là. Elle se pose sur toutes les décisions que ces trucs-là te permettent de prendre. Est-ce qu'elles prennent racine dans un truc métier? Auquel cas, si c'est métier, ça va arriver dans ton code. Et du coup, ça devient plus intéressant d'intégrer ça côté code. Et si t'as un métier tout con qui aura aucun impact sur ton mesh et ce que tu fais, bah ouais, autant shipper.
Transforme ça en infra, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est la, quand est-ce que le métier vient creeper dans ton infra ou pas?
Bon, là, on est pile sur la ligne fine entre les deux, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc qui est tangent.
C'est quand même beaucoup plus côté infra, là. Hein. L'idée, c'est que t'as ton service centralisé qui envoie la conf à tes services mesh. Après, effectivement, ça permet de le gérer plus proprement. Parce que ton dev pourra toujours dire, bah, en fait, pour ce service-là, on a besoin de telle ou telle option. Mais, parce que c'est ça, en fait. Tu vas avoir des politiques que tu peux appliquer par service. Mais ce sera quand même géré côté infra de façon centralisée.
Alex, un avis sur la question?
Ah, bonne question. L'article est sympathique, par contre, je trouve qu'il met un peu trop en avant que les côtés positifs. Moi, ce qui me fait flipper avec un truc comme ça, c'est quand il y a un problème, faut réussir à le cibler, en fait. Et c'est là où vraiment ça fait peur, un système comme ça.
C'est assez verbeux côté réseau, et c'est peut-être pour ça que le trend observability est arrivé après le trend.
Ouais, je pense que t'as intérêt d'avoir vraiment tout ce qu'il faut au niveau log et monitoring pour réussir à repérer les problèmes quand t'as quelque chose comme ça.
Ça a été con. D'ailleurs, la plupart des approches de logging, de recueil de métriques et d'agrégation en partant d'un point unique où tu mets des identifiants qui permettent de faire de la corrélation entre tous les calls, retrouver l'arbre de calls, viennent de ça, en fait. Au moment où tu as décomposé ces appels-là, bon, c'est pas spécialement nouveau à l'approche microservice. En revanche, la manière de le faire et le mode de déploiement et ainsi de suite, et les outils sont différents.
Ah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est centralisé,
c'est
industrialisé. Et tu peux quand même coller un APM sur ton service mesh à regarder un peu ce qui se passe, quoi, donc.
Lance, ça ship pas directement avec du Prometheus, genre à côté ou une connerie comme ça. Enfin,
c'est ce que c'est le rôle de ton mesh de récupérer justement les logs et les métriques. Et l'avantage du sidecar, des fois, c'est que c'est aussi lui qui peut les envoyer. Alors, pas tout le temps, mais.
Après, l'approche de Linkerd qui disent que c'est très infra, c'est un peu logique parce que c'est aussi leur point de vue. Quoi. On a un produit qui est côté infra. Mais c'est vrai que parfois, ça peut se défendre d'avoir ça plus dans le code, mais du coup, c'est pas tout à fait la même approche. Qu'on peut prendre. Mmh.
Vas-y.
un service mesh, c'est une archi. Après, c'est pas un produit et c'est pas un choix de solution. C'est une archi. Clever, quelque part, il y a un bout de service mesh dedans. Hein, c'est quand on a des proxys qui sont automatisés, qui sont partout les mêmes, et des collecteurs qui renvoient des choses au même endroit, et un data plane et un control plane pour tout regarder. Quelque part, on est un peu là-dessus. C'est alors, juste,
si tu regardes un peu ce qui se passe, du point de vue de pas mal de gens, le service mesh, ça a plus l'air d'être un produit, et chez Google, ils sont un peu salés par rapport à ce qui se passe avec Istio, mais...
Et ça, nous en parlerons après.
Voilà. Mais il y a un dernier point que je trouvais intéressant sur le service mesh quand même, qui était, mais en fait, ça me double mon nombre de conteneurs, ça va être énorme, ça va consommer plein de ressources. Et dans le cas de Linkerd, qui est un projet Rust, ça prend 10 mégas de RAM en plus, donc globalement, ça va.
Après, moi, je suis assez surpris sur l'argument, parce que l'argument principal des conteneurs, c'est que tu n'as que ton process. Si globalement, ton sidecar, il est avec ton appli, qu'il soit dans ton appli ou qu'il soit à côté, fondamentalement, d'un point de vue conteneur, ça ne change pas énormément de choses.
Tu les mets à jour indépendamment. En fait, l'un des intérêts que tu pouvais avoir, c'est-à-dire que si ton service essaie de se connecter à un autre service en utilisant une adresse DNS, etc., en fait, si tu enlèves le service mesh, si tu enlèves le sidecar proxy, ça marchera quand même. C'est-à-dire, la connexion prendra peut-être un petit peu plus longtemps, peut-être que ça va fail, mais globalement, que le service mesh, que le sidecar proxy soit là ou pas, normalement, ça doit marcher.
Ouais, moi, ça me choque pas trop, la multiplication des conteneurs. De toute façon, c'est fait pour ça et ça a été vendu comme ça.
C'est ça l'argument.
Bon, ouais, écoute, fine.
Puis conteneur ou VM légère, finalement, c'est pareil.
Je ne se prononce plus. c'est l'approche de Giant qui m'avait bien plu au début. Alors Giant, c'est des gens qui faisaient du conteneur as a service il y a très longtemps, parce qu'à l'époque c'était pas des conteneurs, c'était des zones, parce que c'était du BSD, c'était du Solaris. Et quand Docker est arrivé, ils ont fait un truc très simple. Ça tourne toujours sur Solaris, mais ils ont fait un mapping des appels kernel Linux sur les appels kernel Solaris. Et du coup, du jour au lendemain, ils disaient c'est bon, on supporte Docker. Et donc ils étaient vraiment dans cette trend-là dès le début. Et ils avaient fait un truc qui s'appelait Autopilot, qui était un petit démon Go en fait que t'embarquais dans ton conteneur. En fait, le endpoint commande dans ton conteneur Docker, c'était toujours Autopilot, et c'était lui en fait ton sidecar, sauf que c'était un process Go qui tournait dans ton Docker et qui faisait tout le wrapping de tout ce que tu faisais tourner dans ton conteneur. Du coup, t'as pas un autre conteneur, c'est un truc qui vient avec, qui est tout le temps là.
Du coup, il était quoi? Il était plus bas niveau au niveau réseau, ou il était tu l'adressais comme une sorte de proxy?
C'était un proxy, mais qui était dans ton conteneur. C'était un process qui tournait dans ton... Alors, du coup, tu avais plusieurs process par conteneur.
Ça n'arrive jamais.
je trouvais ça intéressant. Anyway, je vous propose de changer de sujet et d'aller sur le prochain lien. Ça s'appelle Noria Dataflow for High Performance Web Applications. Je ne sais pas ce que c'est.
J'ai rien compris.
Voilà.
C'est un lien je plaisante.
C'est donc un lien de jeu moins compris.
Explique-moi, je peux pas dire que j'ai vraiment compris tout l'avantage, mais ça a l'air cool.
Alors, bon, c'est une base de données, déjà.
Ah, c'est cool.
Importante. Ils ont fait un connecteur MySQL, donc normalement, tu connectes ton app à ça, ça marchera de la même façon. En fait, ils ont une archi qui est assez rigolote. Le data flow, c'est, tu vas générer, en fait, une série d'opérations qui vont te générer des vues. Et à chaque fois que tu changes une valeur, hop, ça passe dans toute la liste de modifications et ça va mettre à jour les valeurs. Ce qui est intéressant, en fait, dans leur système, c'est que on va commencer, en fait, par faire une espèce de prepared statement. C'est-à-dire, on dit, je veux faire telle requête. Et le truc va générer une vue à partir de cette requête. C'est-à-dire, il va prendre la série d'opérations que ça crée. Et va faire une vue de l'ensemble des valeurs qu'on a pu enregistrer à partir de la requête. La différence par rapport à une vue dans une base de données normale, en fait, c'est que il va pas générer toutes les valeurs il va pas générer la vue entière. Il va mettre en cache tout ce qu'il peut, c'est-à-dire les valeurs finales, les valeurs intermédiaires, parce que si on a plusieurs requêtes qui utilisent des résultats intermédiaires en commun, ça va les...
histoire qu'ils refassent pas tout l'arbre à chaque fois. Oui.
Voilà, ça va les mettre en cache. Et si, par exemple, on fait une écriture, hop, ça va passer au niveau de toutes les opérations et ça va les mettre à jour. Et du coup, ils ont un concept de vue partielle. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker entièrement toutes les valeurs finales, finalement, on va avoir que les valeurs récentes. Donc, leur concept est très, très intéressant. Ça utilise pas beaucoup de RAM. Ça permet des opérations assez complexes. Il y a un catch, forcément, c'est que des fois, ça prend du temps qu'un write arrive jusqu'au read. Donc, on va faire
suivant la quantité d'opérations à restituer. Quoi.
C'est ça. Et écoutez un podcast d'un des concepteurs de trucs, il disait, enfin, on peut quasiment estimer la latence entre le moment où l'écriture est acceptée et le moment où on peut lire la valeur par rapport juste au nombre d'opérations qui vont s'effectuer.
Donc, latence de lecture mémoire avec latence d'opération.
Voilà. Du coup, on n'a pas le read or write qu'on aime bien dans les bases de données, mais il y a un intérêt, c'est que il y a pas besoin d'énormément de transactions ou choses comme ça. Parce qu'à la lecture, en fait, on n'a que des valeurs qui ont été pré-générées. Okay. Et leur concept, c'est qu'il n'y a pas de lock qui vont affecter la lecture au moment où tu es en train d'écrire. Parce que à chaque fois qu'une écriture a été faite, qu'ils ont tout recalculé, pouf, on switch pour toutes les prochaines lectures vers la nouvelle vue.
Mais dis-moi, et là je vais prendre un ton dans l'adresse directe, est-ce que par hasard ils n'auraient pas implémenté du CQRS dans une DB?
C'est exactement ça. Le Dataflow, c'est globalement lié du CQRS, ouais. Mais c'est le CQRS avec les opérations en plus gérées. Le concept qu'on met souvent dans le CQRS, c'est que tu as ta DB d'event source, et puis tu écris ton code qui passe dessus, etc. Et tu te génères tout en mémoire, etc. Là, ça te gère un graphe d'opérations en plus. Il y a cette partie-là.
C'est assez intéressant. Après, ils ont en plus des outils qui permettent de voir ces flux-là. Ça fait des optimes intéressantes. Enfin, les outils d'optimisation intéressants.
Ouais, ça peut se faire. Hein. C'est un intérêt qu'ils avaient. Là, ils avaient fait un des tests sur la DB de Lobsters, là, qui est une espèce de hacker news-like avec des gens qui ont des opinions du même acabit. Et il y avait cet intérêt, par exemple, qu'on peut avoir le compteur de vote qui va être calculé si quelqu'un est en train de cliquer au fur et à mesure, mais et du coup qui va apparaître dans les vues générées. Par contre, le calcul du nombre de votes pour un poste qui n'a pas été vu depuis 2 ans, ben celui-là, on recalculera que vraiment au moment où on en a besoin.
Mmh. Donc c'est là que tu dois faire ton réglage. Le réglage de la période et de la quantité de RAM dédiée au truc est important par rapport au business.
Oui, c'est là où en fait ce sera probablement piégeux à l'emploi, c'est que comment tu gères ton cache, à quel point ça doit être optimisé, automatisé. C'est là où il y a probablement du travail.
C'est les mêmes trade-offs que tu fais sur une DB après. Hein.
C'est ça. C'est le problème systématique du cache, en fait. Quoi. C'est son problème, c'est quand est-ce que tu l'invalides. La question est toujours là, peu importe la techno que tu utilises.
Là, ils savent quand l'invalider. C'est tu fais ton écriture, ça passe dans le système, et c'est le problème, c'est quand tu évictes, en fait.
Quand tu évictes, les first in, last out.
Je pense que à mon avis, les différents paramètres pour les newcomers qu'il va y avoir sur cette base et savoir quels impacts ça a sur le vrai succès de performance des requêtes derrière, ça va pas être.
Ça reste très recherche, hein, comme, ouais.
Ça vient du MIT, hein. C'est.
Non, mais c'est marqué sur le lien à la limite.
Il y avait marqué Geoffroy en gros sur le lien, parce que c'est du Rust, ça vient du MIT.
Mais pas que des liens incompréhensibles.
Non, en plus, c'est super compréhensible.
Non, mais ça va.
Ça va. Et donc, il y a un connecteur maille pour faire des vraies choses avec. On attend le connecteur PG.
Quelqu'un va faire un foreign.
Ça marche avec MariaDB, c'est ma question.
Nous, c'est du perconnage, je crois.
C'est du perconnage,
ouais. Ouais, c'est pas.
Alors, on reste dans la data. Là, on va dans la grosse data, puisque c'est un lien sur Wikimedia. Et il y a un nouveau projet qui s'appelle le Abstract Wikipedia, et c'est un lien de Alexandre Berthaud.
Absolument. Ouais, on reste dans la data, mais c'est un peu moins technique. Enfin, un peu moins technique, relativement. Le résultat ne le sera pas trop. L'idée de ce projet-là, donc c'est bien un projet pour l'instant, il n'y a rien de nouveau qui est sorti pour l'instant, c'est de se baser sur, en fait, la base graph de Wikipédia qui s'appelle Wikidata. En fait, dans Wikipédia, chaque élément est lié à d'autres éléments, et donc on retrouve des pages même qui représentent des dates, ou on a une page humain, ou enfin, des trucs vraiment très très basiques. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir écrire, entre guillemets, un article, juste en décrivant ses relations avec d'autres éléments dans la base Wikidata, juste en établissant les faits, en fait, sans les rédiger, Et donc l'idée de l'Abstract Wikipédia derrière, c'est de pouvoir générer des articles vraiment lisibles à partir de ces infos-là dans différentes langues, dans le but de réduire les différences entre les différentes versions de Wikipédia. Il y a beaucoup plus d'articles dans le Wikipédia anglais que dans le Wikipédia français, et même encore pire dans d'autres langues. Voilà, c'est l'idée. Après, dans combien de temps ce sera vraiment utilisable et est-ce que ce sera vraiment utilisable un jour, on ne sait pas. Mais l'idée est là, et c'est voilà, l'article intéressant à lire. Voilà. Et je vous invite aussi à aller voir du coup wikidata.org, qui est du coup la version vraiment juste data des articles Wikipédia. Et c'est assez marrant à voir. C'est, genre, tu vas sur la page d'une personne, tu vas vraiment voir le truc, genre c'est lié à humain. C'est assez particulier.
C'est intéressant de se balader dans un graphe d'entité comme ça.
C'est cool et c'est un peu flippant de se dire que ça va vraiment résulter sur quelque chose de lisible et de...
Ouais, c'est la partie où je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner derrière.
Avec les nuances qu'il y a déjà sur les langues. Après, bon, les façons, c'est vertigineux là-dessus, hein, sur les petites traductions notamment. Mais c'est assez vertigineux, je trouve.
C'est l'article finit par... on reconnaît que Abstract Wikipédia, c'est ambitieux. Mais nous reconnaissons aussi son potentiel. Venez nous aider dans ces chemins non explorés.
Bah, là où ça peut être plus... Alors après, moi, là où je trouve ça un peu flippant, c'est que comme dans tout travail, entre guillemets, encyclopédique, hein, même si Wikipédia, c'est pas non plus une encyclopédie à proprement parler, mais disons qu'il y a un travail éditorial, il y a un truc de fou, qui soit fait sur un graphe plutôt que sur du texte, c'est une chose. Mais par contre, je vois beaucoup plus de potentiel moins équivoque sur de la documentation. Donc, si tu fais de la pure documentation et que tu veux pouvoir traduire quelque chose, pouvoir l'exprimer dans un graphe structuré et te dire que tu vas avoir une traduction à peu près, dire qui cause pas à polémique de fou, quoi. C'est-à-dire que entre la doc d'un produit dans une langue ou dans une autre, donc c'est pas dingo, quoi.
C'est-à-dire que les gens vont moins argumenter parce que le texte aurait été généré par l'algorithme.
Je suis pas sûr, justement, si t'as pas l'opportunité de pouvoir rééditer.
Je suis probablement mauvaise langue, mais on va voir probablement à un moment quelqu'un qui vient avec un article. Les faits sont extrêmes et la personne a écrit son article. Et puis, t'as quelqu'un qui poste un diff. Bon, voilà comment l'algorithme l'aurait réécrit, donc faut que tu réécrives comme ça.
Et là, c'est appliqué automatiquement sur tous les graphes.
Bah après, vu que ils ont généralement envie que tous les articles soient écrits grosso modo de la même manière, ça a du sens aussi.
Ah, connaissant le fonctionnement de Wikipédia jusque-là, il y a des chances que tout bien si c'est généré et que ça n'a pas été retravaillé derrière, il y aura un bandeau disant article généré automatiquement depuis la source de la version machin. Mais après la démarche techniquement est intéressante, quoi. Donc, générer du contenu textuel sur base d'un graphe, sans doute pas inédit, mais je trouve ça intéressant.
C'est vraiment pour de la doc où t'es censé faire des textes très très simples, sans superlatif, des choses très to the point. Si t'arrivais à exprimer une doc comme ça, ça pourrait être assez génial. Hein.
Après, je pense que ça permettrait de faire des docs qui permettent de décrire quelque chose, mais par contre, pour expliquer comment utiliser quelque chose à partir de données en graphe, ça me semble plus compliqué.
Oh si, tu génères de l'UML, ça va très bien se passer.
Là, ça va dépendre des cas. Par exemple,
excusez-moi, on avait dit pas de grossièreté.
Sur tout ce qui est fait historique, tant que ça rentre pas dans les détails des anecdotes, c'est-à-dire la partie, la personne est née à tel endroit, a vécu à tel endroit, etc., tout ça, ça se génère.
Après, oui,
qu'est-ce que la personne a fait de sa vie, le contexte, etc., ça s'écrira à la main. De la même manière, les articles mathématiques sur Wikipédia auraient besoin d'un petit peu d'édition parce que pour l'instant, t'as l'impression qu'ils sont générés. Il n'explique rien. Et parce que on peut te sortir les équations comme ça, puis voilà ce que tu mets en entrée, voilà ce que tu mets en sortie. La logique derrière, d'où vient la théorie, etc. Par contre, ça, c'est des choses qui sont intéressantes à apprendre aussi. Et dans chaque domaine, tu auras ça. Surtout les articles d'ingénierie aussi.
Générer un contenu didactique, c'est pas anodin. Ouais, puis le contexte de la langue est vachement important. Et...
C'est ça.
Est-ce que tu as une langue très épurée, très soutenue, pas soutenue? Enfin voilà, c'est compliqué, compliqué.
Restons dans les fondations le lien suivant, c'est la création d'une nouvelle fondation open source qui s'appelle Open Usage Commons, qui était faite exclusivement. Dans les gens qui travaillent et qui ont un job, il y a que des googleurs. Des Googleurs, donc des ex-Googleurs, et des académiciens.
Moi, je connaissais pas cet acronyme.
Alors, quand tu vois Xoogler sur Twitter, si tu vois Xoogler, c'est un truc admis, c'est un ex-Google.
Je l'avais pas vu encore.
Il y a une diaspora de Xoogler et ils ont un réseau et ils s'entendent bien et ils font des trucs ensemble et tout ça. Bref, du soft. Et ils ont annoncé Open Usage Common. Et donc, c'est une nouvelle fondation pour la gestion de la trademark open source. Et on insiste fortement sur Google parce qu'en fait, les trois premiers projets dans cette fondation, déjà, il y a Istio, dont on parlait tout à l'heure, qui était quand même censé arriver dans la CNCF ou qui était déjà dans la CNCF, je ne sais plus, qui est donc un projet plutôt Google. Tu as Angular, qui est un projet complètement Google. Et tu as Gerrit Code Review. Alors, eux, je ne sais pas ce qu'ils foutent là, je ne sais pas qui le fait, mais ils sont là. C'est peut-être la wildcard neutralité. Tiens, mais bon, tu as quand même Istio et Angular. Quoi.
Et Gerrit, c'est un truc qui est à la Fondation Eclipse, déjà. Ouais, mais c'est pas une fondation.
Mais Gerrit, Gerrit est utilisé par Google, en fait. C'est ça aussi le truc qui fait que c'est là, je pense.
Probablement.
Tous les projets.
Je pense qu'il doit y avoir pas mal de contributeurs de Google dessus.
Ouais. Ouais.
Aussi. Après, qu'ils commencent, que les personnes qui ont proposé ce truc-là commencent par leur propre projet, c'est pas choquant en soi, ça dénie pas l'idée. Après, ça vient pas de nulle part non plus.
Non, alors c'est logique. Après, t'as pas mal de gens qui sont un peu fébrile, parce que tu as beaucoup de questions de gouvernance en ce moment dans le monde Kubernetes, vu que c'est un projet Google, mais c'est un projet Google, Red Hat, IBM, enfin, il y a tout le monde dessus maintenant, quoi. Et donc, tu as IBM qui a écrit un autre article en disant « Istio Google Open Usage Common, nous ne sommes pas d'accord. Le but original de ce projet était que tout finisse, trademark y compris, dans la CNCF, donc la cloud native, je sais plus quoi. » Et du coup ils sont pas contents et du coup on est re sur une guerre de gouvernance de projet open source avec une autre fondation, un autre standard comme les XKCD sur les standards, vous savez, où il y a 14 standards, c'est n'importe quoi. Je vais écrire un nouveau standard pour tous les unifier.
Il y a 15 standards.
Les fondations,
sachant
c'est
que
pareil.
Sachant que les fondations, on te présente une fondation, mais en fait elle dépend d'une autre, etc. La CNCF, c'est dans la Linux Foundation, non? Il n'y avait pas un truc comme ça?
Je sais pas.
C'est d'ailleurs, c'est Cloud Native Computing Foundation, j'ai regardé en temps, le deuxième site. Ouais, je crois que c'est lié de plus loin.
Ouais, c'est ça.
Après, il y a Fondation et Fondation.
La Linux, la CNC,
il y a les bonnes fondations.
Depuis 2018, en fait. Donc, c'est pas non plus les mêmes orgas.
Non, c'est pas du tout les mêmes gens, en plus. Hein. C'est pas les mêmes. Politiquement, je pense que ce sont des gens assez éloignés, et comme il y a quand même globalement pas mal de politique dans ces choses-là. Ou alors c'est juste l'occasion de se créer une autre fondation et de se reverser des salaires de ministres avec l'argent de ces boîtes merveilleuses qui font partie de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un... c'est assez transparent, ils avaient largué tous les salaires des gens de la Cloud Native Foundation et globalement, ça a l'air de bien se passer pour eux.
Bon, très bien. L'argent qui retirait non seulement des sponsors, mais aussi des conférences.
Des events et tout ça.
Ouais, ça avait un peu fait scandale quand c'est sorti, parce qu'effectivement, les events sont très chers et du coup, il y a des gens qui ont tickets.
Ça fait plaisir quand tu organises un événement de manière associative. Tu vois ça.
Ouais. Après, tu vois, je sais pas comment ça va se passer pour eux, donc pour faire un petit aparté événement, etc. Je rappelle qu'Aurélie, qui était, donc c'était le métier, c'était un des métiers, Aurélie, ils vendent des bouquins et des abonnements à Safari Online, qui est le truc pour lire des bouquins en ligne. Ils avaient aussi une grande partie conférence, donc c'était les Velocity, les comment ça s'appelle, Strata, des choses comme ça. Et ils ont arrêté là avec le Covid. Ils ont annoncé globalement les events, c'est terminé. Donc tu te rends compte que les boîtes dont c'était le métier, en fait, ont déjà pris cher, vont arrêter, et l'associatif Pierre-Antoine, ça continue.
Oh. Covid mis à part, ça marche.
C'est ça. On fait des bisous à Bordeaux IO et Bélix IO et lesquels aussi, DevFest Nantes qui ont annulé cette semaine et Coder en scène qui a annulé la semaine dernière. Voilà. Donc Open Usage, tentative de gestion de trademark un peu différente par des Googlers et des ex-Googlers qui a le don d'énerver les autres. Là, en l'occurrence, on mettra un autre lien, c'est IBM qui a tiré en premier hier.
Et les trademarks, ça reste un sujet qui est important, en fait, parce que autant quand on fait de l'open source, on se focalise beaucoup sur la licence, parce que le développeur, on colle une licence sur un projet, hop, c'est bon, on publie. Mais la gestion des trademarks, ça reste quand même le machin où il faut payer quelques centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros pour aller avoir une trademark dans différents pays. C'est avec ça qu'on a vraiment le contrôle sur un projet, sur son utilisation, notamment par des entreprises. Et c'est pour ça que dans la CNCF, apparemment, ils voulaient qu'il y ait tous les trademarks dedans pour donner l'autorisation à tout le monde de les utiliser, parce que ça rassure les entreprises. Mmh. Mais du point de
vue... Si ça met les produits dans le catalogue, hein. T'as un produit qui est déjà dans le catalogue, t'as le même nom.
C'est ça.
Tu rentres.
Mais du point de vue d'un développeur open source, on a finalement aucun contrôle sur l'image qui est mise sur un projet. Et moi je me rappelle notamment chez VLC, il y a eu un problème assez régulièrement. Par exemple, des gens qui publiaient du spam, qui publiaient des versions de VLC vérolées ou avec des pubs dans tous les sens, etc. Et enfin, le projet ne pouvait rien faire parce que dans ce pays, ils n'avaient pas la trademark, ils pouvaient pas empêcher la personne de repackager et de dire voilà ça, de republier ça. Il y avait tout un contexte là-dessus qui était assez désagréable, mais enfin, ce serait bien que, en tant que développeur open source, on ait plus d'outillage pour gérer les trademarks sur un projet. Pas forcément pour restreindre, mais pour que l'usage reste un peu propre, quoi.
Déjà s'informer, quoi. Parce que pas forcément évident de savoir que tel ou tel trademark est déjà disponible. Enfin, pas évident quand t'as l'habitude de gérer des trademarks, tu sais où regarder ou tu sais comment trouver, mais savoir si tel ou tel trademark a tel ou tel statut dans tel pays, c'est pas évident du tout.
Bah, ça.
Je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant aussi quand comme t'as un projet open source qui a une boîte par semaine backée par des VC dans la vallée. Je pense que la trademark pour eux c'est super important aussi, parce que quand tu es en train de monter un business autour d'un produit particulier, t'as envie de savoir où elle est et qui elle est. Probablement.
C'est probablement aussi pas anodin les failles récentes qu'il y a eu sur des projets open source. Si on pense notamment à Elastic, qui est un des flamboyants récents, choses comme ça, sur les projets open source qui sont repackagés, repris et rechangés, reforqués, et ainsi de suite, et tout en gardant si possible le nom dedans, parce que c'est le nom du projet open source et que finalement ça fait partie du package, c'est pas forcément évident. Quant à, alors là, sur Istio, c'est peut-être pour autre chose, qu'il y a des contributeurs d'un peu partout, mais quand t'as une boîte principale qui contribue dessus, c'est clair que c'est chaud.
Absolument. Alors, on va rester dans le Google Space. Le prochain lien, Alexandre, Google Overtime will continue to invest in Rust dans Android.
Eh oui. Quid. Alors, c'est très rapide. Hein, c'est juste un lien. Le lien pointe sur Reddit et le lien Reddit fait juste que sortir un extrait d'une vidéo, une vidéo de la chaîne Android Developers, qui fait des news de temps en temps sur des tutos pour dev des apps, des news sur les nouvelles API, etc. Et là, du coup, il mentionne dans cette vidéo-là, qui parle de sécurité dans Android, que une équipe chez Google, on ne sait pas trop dans quel sens ça se passe, réfléchit à l'utilisation de Rust dans Android pour certains composants à la place de C++ actuellement, dans une optique d'améliorer la sécurité. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais je trouve ça intéressant pour le futur.
Parce que quelque part, ça a un peu de pair avec les réflexions qu'il peut y avoir, même en dehors d'Android, sur certains composants de Linux, sur certaines... voire même sur certaines parties du kernel.
Je sais plus, ça a parlé dans le dernier podcast, mais c'est quelque chose qui devrait arriver, ouais, de plus en plus de Rust dans le kernel.
En tout cas, c'est pas exclu.
Ouais, en tout cas, ouais, voilà.
Ouais, c'est quand ton métier c'est de te réveiller la nuit parce qu'il y a des trucs qui marchent pas, tu préfères avoir du Rust en prod que du C++ en prod. Hein,
c'est sûr.
C'est bien normal. On rappelle que Rust si vous n'utilisez pas le mot-clé unsafe dans tout le code Rust que vous écrivez, on rappelle que Rust ne segfault pas.
Alors.
Oh le trigger.
Je me doutais qu'on avait. J'ai essayé de mettre pareil, mais il y a.
Ça dépend de ce que Rust appelle aussi.
Ouais.
En fait, comme dans tout langage, il y aura des bugs, etc. Et il suffit d'aller chercher sur le GitHub du compilo Rust. Et il y a encore des cas qu'on trouve en dehors d'unsafe où c'est pas clair. Ils appellent ça les bugs unsound. Après, la focalisation sur unsafe, moi, c'est Oui, effectivement, c'est très bien d'avoir du code où il y a zéro unsafe. Est-ce que on doit interdire tout code qui a ça? Je pense pas. C'est-à-dire que t'es grosso modo en train d'écrire du C. Enfin, ça reste toujours du Rust avec un certain nombre de règles. Tu fais pas n'importe quoi. T'as juste un contrat plus précis à avoir avec le compilateur et des règles précises à suivre à la main. Mais enfin.
En fait, juste l'inversion du paradigme qui est intéressante, c'est que tu piques les endroits où tu veux être unsafe, c'est plutôt ça. Que de faire un pic des endroits où tu veux être safe.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à côté, on a des gens qui shippent du C, du C++ dans tous les sens, et là, on va refuser un projet Rust parce qu'il y a trois lignes d'unsafe parce que, on fait de la FFI et on prend.
Ouais, c'est l'excès inverse.
C'est ça. On a pris un pointeur et une longueur venant d'un bout d'une lib, et puis on regarde dedans, forcément, c'est unsafe, on a un pointeur. Oui.
Faire des choix.
Ça permet effectivement de choisir les endroits où on fait des trucs un peu sales et ça permet aussi de repérer plus voilà dans un audit.
Voilà, moi ça me fait ça va paraître bizarre comme analogie, mais ça me fait penser au même problème que sous GPL en fait. Quelque part c'est le côté puriste du truc où tu dis ouais il faut absolument que ce soit pas unsafe, mais du coup ça va pas aider forcément ni à l'intégration ni à la contribution dans tous les cas quoi.
Si c'est pour finir à avoir un projet aussi utilisé que Herd, on n'est pas obligé. C'était gratuit.
C'est un peu gratuit, mais ça reste pas faux.
Pardon, Geoffroy.
On aime bien les débats de puristes comme ça dans la communauté Rust. Il y a des sujets qui reviennent très, très, très régulièrement. Tu as le unsafe, tu as le nombre de dépendances, et à chaque fois, on est parti pour deux semaines sur le sujet. Quoi.
En compte, on pourrait en être Rust si ça débattait.
Oui.
Et donc, on va rester dans le Rust avec deux liens, un qui explique un peu ce projet et un article vers le projet sur GitHub qui est AVML, un projet en Rust qui s'appelle Acquire Volatile Memory for Linux. C'est quoi?
Bonne question. Je vais parler du projet déjà en lui-même. C'est donc une annonce de Microsoft. L'idée de ce truc-là, de projet Freta, c'est d'analyser ce qui se passe sur une VM, mais pas en faisant tourner un agent sur la VM qui va analyser le comportement de ce qui tourne dessus, etc., mais en prenant une copie complète de la RAM et l'analyser pour l'analyser derrière. Voilà, donc une idée assez sympathique qui évidemment vont garder pour eux, pour Azure, mais une partie de ce qu'ils font, et du coup entre autres la partie copie de la RAM, est open source, et c'est fait en Rust, et ça s'appelle AVML. Donc c'est un tool qui est capable de choper toute la RAM d'une VM, en mode snapshot. Et voilà, pour le forward derrière, alors eux, de base, c'est fait pour être envoyé sur Azure, mais on peut l'envoyer n'importe où, et après, on analyse comme on peut. Alors là, c'est le problème, c'est que cette partie-là, a priori, ils vont la garder pour eux, mais l'idée était intéressante, et vraiment ça, l'article est assez en détail sur le... L'article est assez en détail sur le pourquoi ils font ça, dans quel but, etc. Et c'est assez intéressant à lire. Je vous encourage à aller voir ça.
Oh, tu peux cloner et allumer ton D-Trace et aller regarder ce qui se passe avec ton D-Trace dans un truc que tu as cloné quelque part.
C'est un peu l'idée, ouais. Ouais.
C'est beau.
Analyse statique.
C'est chouette. On va changer un peu, mais pas complètement de sujet. On part dans dans les histoires de rachat et de cloud. On a parlé de Kubernetes tout à l'heure, d'Istio, on a parlé des problèmes de trademark, on a parlé de ces choses-là. Et donc, SUSE, ou OpenSUSE, je me rappelle jamais comment il s'appelle, qui a quand même globalement, SUSE, qui a changé de groupe. Au début, c'était chez Novell, ça a été racheté 3-4 fois depuis, qui est donc une boîte européenne de soft, qui à la base éditait une distribution Linux, a acheté Rancher. Rancher, les mecs qui font... alors, qui faisaient Rancher, qui était un des premiers orchestrateurs Docker super simples à utiliser avant Kubernetes, et qui, comme tout le monde, sont sautés dans le wagon Cube, en faisant plus simple, plus intégré, plus mieux, enfin c'est vraiment agréable à utiliser.
Et c'est assez compact en Rancher.
Ouais, ils ont sorti K3S, qui est la version vraiment compactée,
amassée
de Kubernetes. Pierre-Antoine Grégoire, vous avez posté le lien aussi.
Ouais, moi je trouvais le parallèle intéressant parce que historiquement, pour avoir lu chez plusieurs de mes clients historiques, Novell adressait les clients de Red Hat et Red Hat adressait les clients de Novell. Le parallèle entre ça, entre Red Hat et l'acquisition notamment de CoreOS et SUSE qui table sur Ansh, assez symétrique quelque part dans l'approche, c'est de prendre des acteurs, essayer de récupérer les derniers acteurs core entre guillemets qui ne sont pas encore intégrés chez un des concurrents. Pour pouvoir aussi fournir quelque chose dans SUSE, hein, qui est un peu inédit et pas dépendant de la roadmap des autres, quoi. J'imagine, hein, en tout cas. Même si, bon, quand on parle de Kubernetes, dire que c'est pas dépendant de la roadmap des autres, vu qu'il y a un tronc commun, c'est un peu difficile de lire, quelque part. Mais là, j'avoue que pour le coup, j'ai pas creusé plus le sujet, mais je trouvais ça assez intéressant comme mouvement. C'est arrivé hier, hein, c'est la news d'hier soir, je crois. Au moment où on enregistre, bien sûr. Et j'ai pas énormément plus à dire là-dessus. Mais c'est intéressant de suivre où vont les différentes solutions pour les gens qui utilisent Rancher, de savoir que le support sur SUSE va être pas mal mis en avant, que peut-être sur d'autres distros, ça va venir un peu en conflit avec les autres solutions de ce type. Ça va être peut-être moins disponible sur d'autres distros.
Ouais, mais j'ai l'impression que K3S avait un peu le vent en poupe. Alors peut-être que j'ai un effet de bulle dans ma timeline Twitter parce qu'il y a Philippe Charrière dedans, mais j'avais l'impression que K3S était en train de... C'est pas exclu.
Bah, là où c'est intéressant, c'est qu'après, SUSE, ils sont pas trop... historiquement, ils ont pas une approche fermée, dans le genre, il va y avoir un K3S qui tourne que sur SUSE ou optimisé à 100%. Et en général, ils ont une bonne intégration entre ce qu'ils fournissent. J'avoue que chaque fois que j'ai, je suis pas grand utilisateur de SUSE, mais chaque fois que j'ai utilisé, j'ai pas trouvé l'expérience désagréable, sans la creuser de fou. Ils ont une bonne intégration de leurs outils, donc ça, je pense que pour les gens qui utilisent SUSE ou OpenSUSE, ce sera intéressant. C'est bien que le projet, en plus, qui était plutôt un projet de bonne qualité, Rancher, se trouve là. C'est plutôt pas mal.
Right. Geoffroy, Alex, un avis? Un commentaire?
Pas de commentaire. Non, rien de plus.
Pas de commentaire. Eh bien, moving on. On était sur SUSE, on passe chez Fedora. Fedora se demande s'ils vont pas utiliser ButterFS comme file system par défaut. C'est chaud. Moi, je pensais qu'il y avait que XT4 qui était à peu près stable. Et que ButterFS, c'était pour jouer.
Alors... Alors après sur c'était plus sur l'axe c'était sur ButterFS, mais après c'est le contexte. Moi j'ai longtemps et j'utilise encore Fedora en plein de contextes. Et là c'est la prochaine version, donc il y en a une tous les 6 mois à peu près, la 32, là ils considèrent ça. Apparemment ça fait quelques releases qu'ils ont ça dans les options de partitioning et d'utilisation de file system d'utiliser ButterFS, ils ont des retours plutôt positifs. Alors, je pense que c'est un truc qui peut faire probablement hurler les sysadmins fans de ZFS, parce que ZFS est plus stable, a plus de fonctionnalités, choses comme ça. Maintenant, pour un end user sur un desktop, parce que là, on parle des desktops, hein. Fedora, c'est sur Fedora desktop, hein. C'est pas le petit serveur, a priori. Pour un desktop, je pense que ButterFS, le peu d'interaction que j'ai eu, c'est plus facile de prime abord. Ça demande moins d'intervention sur le bas niveau et de comprendre comment ça marche derrière. Et du coup, on s'embête moins à se dire, mince, notamment pour les newcomers, j'ai ma partition root qui a saturé ou ma partition home qui a bloqué tout. Enfin voilà, c'est vu que c'est un système de vase communicant, pour le dire vulgairement, c'est assez intéressant. Je sais pas si vous avez déjà, vous, une expérience de ButterFS ou un avis sur ButterFS ZFS
là-dessus. Non, il faudrait avoir Marc-Antoine avec nous, Marc-Antoine Perrenou, qui utilise ButterFS depuis des années maintenant. Mais il a commencé à s'en servir même quand c'était encore vraiment pas frais, quoi. Et je crois qu'il a eu un problème une fois, mais il y a des années. Depuis, il se tourne bien. On est très content.
Et le retour que j'en avais, en effet, c'est que il y a plein de gens qui l'utilisaient. La plupart des sysadmins qui l'utilisaient étaient plutôt dans le mode en regret de ZFS et attendaient que ZFS arrive sur Linux, en gros. C'est souvent ça. C'était des gens comme ils n'avaient pas encore ZFS, ils utilisaient ButterFS. Globalement, et je ne parle pas de Marc-Antoine en particulier, globalement, les gens qui ont commencé sur ButterFS ou qui ont utilisé ça dès le départ, il n'y en a pas beaucoup. Et je trouvais l'approche assez pilotée. Mais apparemment, il semblerait que sur OpenSUSE, ce soit passé à ButterFS par défaut. En fait, j'ai vu ça en lisant hier soir. Donc, c'est pas non plus complètement inédit. Voilà. En tout cas, c'est un vrai système à regarder parce que si vraiment ils le mettent, comme Fedora est quand même assez répandu, et que surtout Fedora est surtout souvent un côté investigation pour les futures versions de, sur Red Hat ou CentOS, quelque chose comme ça, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir de l'investissement sur ce côté-là, parce que ce qui manque apparemment sur BetaFS, c'est surtout un investissement pour résoudre certains bugs et manquements par rapport à notamment ZFS.
Ah, du coup, j'ai voulu regarder, et en fait, il y a une page Wikipédia où tu as la liste des distribs et le dernier choix de FAT System, et où tu apprends que effectivement CentOS, Red Hat Enterprise sont sur du XFS,
ouais, celui de Red Hat
14, ouais. Que Fedora c'était EXT4 ou XFS, que OpenSUSE depuis 2015 c'est une combinaison de ButterFS et de XFS, voilà quoi. Et que Debian est toujours sur EXT2 avec GNU Herd, mais EXT4 avec GNU Linux. Voilà.
Ouais. Surtout un peu plus conservateur. Et bon, après, le XFS est un peu particulier. Hein. XFS, dans mon expérience, enfin, je le cantonne à ça. C'est très bien pour des file systems qui vont s'étendre indéfiniment. Si on a du file system base de données, il est plutôt rapide, mais par contre, il n'y a pas de, resize, de shrink. Enfin, ce genre de besoin qu'on peut avoir quand on est sur un desktop ou qu'on veut réserver, tiens, on se dit, tiens, il me reste 100 gigas sur mon disque et j'aimerais bien les prendre pour installer un deuxième boot ou mettre autre chose, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Faire du resize avec du XFS, bah, déjà, tu peux pas shrinker. Donc, c'est simple que ça, tu peux pas. Donc, voilà, c'est vraiment un truc qui est fait pour, au départ, plutôt pour des databases, en fait. Donc, chose qui va grandir et qui est optimisée pour la lecture et écriture.
Yes. Sans transition, nouveau lien, on parle de Meld. Meld, un outil proposé par Pierre-Antoine Grégoire aujourd'hui.
Proposé, oui. C'est pas moi qui l'ai fait, mais. Oui, enfin voilà, j'avais envie de...
Un lien proposé par Pag aujourd'hui.
Alors si vous ne le connaissez pas, après il est peut-être connu de tout le monde, si vous l'avez déjà tous utilisé, je crois que le truc, c'est probablement la plupart des utilisateurs l'utilisent. C'est un outil de merge à la Cadif, à Micro, mais qui est graphique en fait. C'est un outil qu'on utilise dans une distro graphique et qui est vraiment pas mal, qui est assez simple. On fait meld d'un folder ou deux ou trois folders, et on peut faire des merges visuels. Qui est plutôt bien gaulé. Donc, voilà, j'ai utilisé historiquement pas mal.
Je sais pas, Geoffroy, Alex, vous utilisez quoi pour faire des merges? Pour voir des merges? VI.
Pas de merge.
Ah, perso, voilà. Juste, vraiment, c'est juste ça. Je lis le patch directement par petit chunk et voilà. C'est tout.
Alright, et pour une fois, cet outil n'est pas écrit en Rust. Moving on. au prochain.
Désolé, lien. Vraiment désolé.
C'est pas grave, tu as le droit.
J'apprendrai.
H266 VVC, qu'est-ce que c'est que ça? Alors H266, il y avait 264, moi je m'étais arrêté là. Apparemment, il y a eu un 265, et maintenant on est à 266.
Ouais, alors le 265 n'est pas encore implémenté partout. Mais fidèle à mon stream sur le 4K, parce que la dernière fois j'avais parlé des processeurs qui géraient 4 écrans 4K. Maintenant, là, c'est un algorithme de compression qui peut globalement traiter plus ou moins un signal 4K dans le même, on va dire, enfin, un signal, une compression, une vidéo compressée en 4K prend à peu près la même place qu'une vidéo en Full HD. C'est l'argument théorique. En pratique, c'est plus autour de 50% de gain de taille. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est un de leurs objectifs. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant, en fait, ça m'a fait penser au parallèle, c'est peut-être un parallèle polémique, attention, polémique, sur la 5G, en fait, où au-delà de tous les débats de est-ce que ça provoque le Covid ou pas, c'est une autre question, qui est sur la problématique de est-ce qu'on a besoin de plus de bandes passantes, et t'as toujours cette dualité entre, oui, ça promet plus de bandes passantes, mais en même temps, si t'as une meilleure compression, une meilleure gestion pour envoyer la même chose, une plus faible consommation pour envoyer la même chose, c'est aussi plutôt pas mal, quoi. Donc, c'est vrai qu'en revanche, ça a toujours la problématique. Oui, ça compresse. Du coup, ça va encourager l'usage de la 4K à la place d'autre chose. Donc, c'est pas forcément bon en termes de consommation. Mais c'est intéressant de savoir que on a la capacité d'augmenter les encryptions à un ratio pareil. Parce que 50% d'optimisation sur de la compression vidéo entre deux versions standard, c'est quand même pas mal, quoi.
Surtout qu'on a tous des écrans 4K sur nos téléphones, non?
C'est ça. Non, j'avoue que non. Je n'ai pas cédé. J'ai plus les yeux pour, peut-être.
Potentiellement, ça va aussi apporter des améliorations à plus petite résolution. Hein. Mais c'est ça, intéressant, c'est ce que tu dis, c'est est-ce que c'est bien de pouvoir tout d'un coup mieux optimiser? Moi, ça me fait penser, j'ai plus le nom de ce principe-là, mais en gros, si tu rends quelque chose de plus efficace, par exemple, tu as une voiture qui consomme moins d'essence, mm-hmm. bah le résultat, ça va pas être moins de consommation d'essence en général, ça peut être beaucoup plus, parce que bah ça devient beaucoup plus intéressant d'utiliser la voiture.
Ouais, plus ubiquitaire, hein, c'est ça.
C'est ça. Et du coup, bon, effectivement, les 4K, on n'a pas forcément tout de suite, mais si ça devient cohérent et facile de faire du 4K en streaming, on risque d'avoir plus de gens qui vont avoir envie d'acheter les bons écrans et plus de fournisseurs de télé et autres qui vont pousser là-dessus, quoi.
C'est un peu comme l'optime des jeux sur les consoles. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une nouvelle génération de consoles et que les jeux soient optimisés pour la précédente, en fait? Toujours problématique. Sauf que les gens vont jeter l'ancienne.
Moi, je suis assez d'accord avec Geoffroy. Et puis, une fois qu'ils en ont accumulé 4 dans le placard, il y en aura une nouvelle toute petite avec les mêmes jeux de bundlés que tu pourras mettre sur ton...
Ça n'arrive jamais.
Est-ce que tu n'as plus de prise Péritel pour les consoles qui est dans ton placard derrière ta télé?
C'est bien sûr que si.
Le drame de la vie.
J'ai une télé. C'est ça. J'ai un Péritel vers HDMI, voilà, tu es fou.
Tu as besoin de garder ta vieille télé parce qu'en fait, les vieux jeux de l'époque NES, Mega Drive, etc., jouait sur à quel point le pixel s'étale sur les pixels autour.
Même sur PlayStation. Hein.
Ouais. Du coup, affiché sur un écran LCD, Retina, etc., où chaque pixel est genre bien carré comme il faut,
c'est
dégueu. Alors que vu sur un vieil écran, c'est super en fait.
Bah, la bavure était prise en compte.
Super, c'était un petit peu exagéré, mais c'était moins moche.
Et il y a le facteur mémoriel.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est le côté mémoire et nostalgie qui fait que quand tu revois un truc, tu fais
c'est si moche que ça. Wow.
Ouais, il y avait des trucs moches, hein, ça clairement.
Alors, en parlant de trucs moches, lien suivant. C'est un peu gratos. Code Parade, Non-Euclidean World Engine. C'est une vidéo.
Ouais, je l'ai mis là, mais en fait, après coup, j'ai vu qui a fait aussi. Enfin, j'étais pas le seul à l'avoir mis, pour le coup. Je sais plus qui, mais je l'ai vu passer.
Ouais, je l'ai mis aussi, ouais.
C'est pas d'interne. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un, faudra aller voir dans les show notes parce que, en tout cas, ça va pas rendre grand chose. Mais qui a fait un moteur de rendu, de jeux vidéo, enfin, potentiellement de jeux vidéo. En l'occurrence, c'est son exemple d'application, qui est non euclidien, c'est-à-dire dans le... En gros, on peut voir des exemples qui sont marrants, c'est un tunnel qui à l'intérieur est plus long qu'à l'extérieur, ou on monte dans un tunnel et en fait on a de l'autre côté on ressort plus bas, ou une pièce, une maison avec, on a l'impression qu'il y a 4 pièces, on va dire, qui coupent la maison en 4 parties nettes, puis quand on tourne dans les portes entre les pièces, on se rend compte qu'il y en a que 3.
Je suis en train de regarder, ça me vrille un peu le cerveau, je vais pas te mentir.
c'est un petit peu le but. Alors là où c'est intéressant, moi je vois ça en termes de jeux vidéo, c'est vraiment intéressant. Dans plein d'autres choses, ça peut être intéressant, mais c'est intéressant pour des effets de rêve, de machin, de choses un peu sur le ressenti de la personne qui a l'impression qu'un couloir s'allonge sans que ça devienne une vidéo ou un rendu spécifique pour ça. Du coup, c'est le moteur qui le prend en compte et tu pourrais jouer dans ça, en fait. Sans truquer le truc, quoi, avec un vrai moteur physique, du coup, qui serait lié à ça. Ça, c'est, je trouvais ça plutôt intéressant.
Il y avait un aspect intéressant dans la vidéo, c'est à quel point ça peut, tu peux trick les gens, sur le mouvement dans les casques à réalité virtuelle. C'est-à-dire te donner l'impression que t'es en train d'explorer un truc immense, puis en fait, t'es juste en train de faire des tours dans ton salon et tu t'en rends pas compte. Parce que il va jouer sur la perception que tu as de l'espace. Alors qu'en fait, il est complètement en train de t'envoyer dans tous les sens. Et je trouve ça super malin comme idée. Mais ça me rappelle un truc. Je sais pas si vous avez joué, mais c'est Stanley Parable. Un excellent, excellent jeu qui était fait sur le moteur Half-Life 2, je crois. C'est assez vieux. C'était une blague. C'est un jeu avec une narration et le narrateur te dit de faire des choses décrit ce que t'es en train de faire et puis au bout d'un moment, tu fais n'importe quoi. Tu suis pas ce que le narrateur te dit et ça part en vrille totalement. Et il y avait genre un moment comme ça où t'as un couloir, puis tu regardes le couloir, tu regardes l'extérieur, de l'autre côté du mur, tu regardes le couloir, tu dis, mais c'est pas la même taille, c'est quoi ce bordel? Et en fait, ils jouaient sur des choses comme ça assez régulièrement pour te flinguer le cerveau. Je trouvais ça super marrant.
Et d'ailleurs, justement, tu dis que ça utilise effectivement le moteur source utilisé dans HL2 et aussi utilisé dans Portal. Les Portal utilisent ce genre de mécanisme, en fait, montré ici. Sauf que, ils mettent un portail autour pour que tu comprennes ce qui se passe.
Ouais, ils avaient très cadré ça au niveau gameplay. Du coup, tu deviens un peu moins fou.
Ouais, c'est fait pour que ce soit compréhensible, mais sinon, c'est
une mécanique quand même
similaire de base.
Il y a d'ailleurs un extrait de Portal dans la vidéo que tu as.
Ouais, il en parle justement de ça.
Alors, on m'a dit qu'il y a un jeu comme ça qui s'appelle Outer Wilds, un jeu, tu explores différentes planètes, et apparemment, il y a une planète comme ça dans un coin.
Outer Wilds ou Outer Worlds?
Outer Wilds. Et t'as une planète non euclidienne, apparemment, et c'est n'importe quoi quand tu te bats dessus, quoi.
Là, c'est le moment où, si les auditeurs ont la vidéo, ils peuvent voir le chat d'Alexandre. Alexandre ne retourne pas, il y a un chat derrière toi.
Mais en fait, il n'est pas là, c'est non euclidien.
C'est ça.
Il est dans la pièce d'à côté. Dernier lien, pour finir sur un truc très 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 fun, The Art of Red Wall Virtual Prediction. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écran vert, mais en fait, c'est pas vraiment de l'écran vert, c'est une pièce verte, c'est ça?
Non, c'est au lieu d'avoir une pièce qui est couverte de verre et sur laquelle on va coller la vidéo en post-prod, en fait, tu as une pièce qui est pleine d'écrans de LED et tu projettes ton décor dessus et les acteurs jouent dans cette pièce. C'est-à-dire que ça fait exactement le même effet que de filmer le verre et puis de recoller la vidéo dessus. L'avantage, c'est que déjà, les acteurs voient ce qui se passe, peuvent pointer les choses du doigt, etc. Tu peux avoir une gestion de luminosité qui est extrêmement précise. C'est-à-dire, là, l'exemple, c'était dans le Mandalorian. Quand tu as ton acteur principal qui a un casque bien poli et tout, super. T'as envie que ça reflète la luminosité, le décor correctement. Ouais. Ça évite d'aller filmer en extérieur. Ils prenaient l'exemple de... s'ils veulent filmer un truc au moment du coucher de soleil, ils peuvent passer 10 heures dans la pièce à refaire le même coucher de soleil, il n'y a aucun problème, quoi.
Mais il faut combien d'écrans pour... Enfin, ça dépend de la taille de la pièce, j'imagine, et de...
Plein. Si tu vois la vidéo, la pièce est vraiment immense. Mais c'est super intéressant parce qu'ils peuvent
changer... Là, c'est Disney, ils ont les moyens.
Ouais. Ils peuvent changer le décor au fur et à mesure. Ils montrent l'exemple, quelqu'un avait sa tablette et déplaçait une montagne et tu voyais en temps réel sur les écrans la montagne changer de place.
Et là où c'est sur le flux, sur les flux Reddit des éclairagistes, il y a des gens qui se sont petits suicidés.
Ça, clairement.
C'est tout mon travail qui passe.
Je pense pas que leur travail va disparaître parce que ça coûte vachement plus cher de faire ça qu'un écran.
Si t'as pas besoin de déplacer les gens, du coup, tu déplaces les couleurs à un endroit, mais.
Il y a encore du travail sur la lumière et tout ça autour. Hein. Ça,
clairement.
Il faut bien qu'il y ait le matos. Ça reste quand même beaucoup de gens qui bossent dessus. Mais moi, je trouvais un aspect intéressant, c'est que ça s'est inspiré du jeu vidéo. C'est-à-dire que il y a un renderer quelque part qui connaît la position exacte de la caméra et va changer le décor en fonction de où se place la caméra, comme on ferait avec du rendering 3D dans un jeu, en gérant les effets de parallaxe et des choses comme ça. En fait, c'est vraiment super, super malin.
Ouais, c'est ça la partie difficile. Sur le plan fixe, tu pouvais déjà faire plus ou moins la même chose.
Énormément de boulot. Ok, merci à tous. C'est l'heure de choix musical de la fin de podcast. Je suis de 1 à 5, Pierre-Antoine de 6 à 10, puis Géal de jusqu'à 15, et ensuite Alex jusqu'à 20. Et j'ai fait 2, c'est moi, c'est triste. Qui veut me poser des questions sur ce que j'ai choisi?
C'est pas moi, l'ensemble.
Qu'est-ce que tu as choisi?
Déjà, alors,
j'ai pas le titre.
Ça s'appelle Patron, et la chanson s'appelle Very Bad Boy. Et Patron, c'est un groupe que j'aime bien. Parce que le chanteur avait un autre groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelait Loading Data, qui est un groupe de stoner français. Donc c'est très rock'n'roll. Il a un peu une voix comme ça et il a tendance à chanter un peu comme Elvis. Et moi, je trouve ça très smooth, à la fois très rock. Et tout le reste de l'album est assez fun. Il y a des trucs un peu disco, il y a des trucs un peu... Ouais, il tente des trucs. et ouais, ça passe plutôt bien. Puis ça a été produit par un mec que j'aime bien qui s'appelle Alain Johannes, qui a produit des albums avec pour Queen of the Stone Age et tous ces gens-là, les Desert Sessions.
J'allais dire de prime abord, ça c'est un peu.
Ah oui, complètement, ouais. T'as, sur un des morceaux, t'as Joey Castillo, qui est le batteur de... Alors, c'est un des anciens batteurs de Queen of the Stone Age, je crois. Enfin, c'est vraiment toute cette bande-là de gens de Desert Rock Session qui tournent autour de Josh Homme et tout ça. Et c'est assez fun. Voilà. Eh bien,
merci
aux auditeurs. Merci à vous. Et on se voit la semaine, ou on s'entend la semaine prochaine.
Bonne journée où que vous soyez.
Ciao.
Absolument.